Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Voilà, c'est fini, déjà, la campagne présidentielle est derrière nous, on se sent démunis, un peu comme après une finale de Coupe du Monde de football. Dire qu'il va falloir attendre la prochaine phase éliminatoire pour replonger, au moins 6 mois avant de penser au rendez-vous de 2022, le temps va nous paraître bien long. Alors heureusement, pour patienter, il y a les législatives. Avec à nouveau du suspense, c'est promis. Les candidats au poste de deuxième Premier ministre du quinquennat se bousculent déjà au portillon, alors qu'on ne connaît pas encore l'identité de celui ou celle qui s'installera peut-être très provisoirement à Matignon dans l'intervalle. À en croire les enquêtes d'opinion, les électeurs n'ont pas vraiment l'intention de donner une majorité au nouveau président de la République. Une cohabitation sous le quinquennat, voilà qui serait inédit. Mais l'inédit, n'est-ce pas ce qui caractérise depuis quelques mois déjà la géographie politique du pays? Alors le président pourra-t-il présider et le gouvernement pourra-t-il gouverner? Eh bien c'est la question que nous allons poser ce soir à notre club des idées, non pas du vendredi mais du lundi. Ce sont les mêmes qui étaient là déjà au lendemain du premier tour, qui nous ont rejoints pour ce lendemain de second tour. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez la théologie politique à Sciences Po. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
Producteur à France Culture. La suite dans les idées, c'est tous les samedis à 13h30. Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir.
Le tour du monde des idées, c'est à 11h53 sur France Culture du lundi au vendredi. Et Sylvain Kahn, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à Sciences Po, historien et géographe. Alors je ne vous apprends rien, j'espère, en vous disant que Emmanuel Macron a été élu président de la République avec plus de 20 millions de voix, soit 2/3 des suffrages exprimés. Comment est-ce que vous qualifieriez les uns et les autres cette victoire? Est-ce que c'est, comme le titre Le Monde, par exemple, dans son édition datée demain, un triomphe, Brice Couturier?
Oui, assurément. Parce qu'il n'y a pas eu de Front Républicain, contrairement à ce qui se... Le seul comparatif qu'on peut faire, c'est avec Jean-Marie Le Pen et en 2002 face à Chirac. Alors évidemment, beaucoup de gens disent Macron fait moins bien que Chirac. Sauf que, un, c'était Jean-Marie Le Pen, et que, deux, il y avait un Front Républicain. Cette fois-ci, il n'a pas eu lieu. Souvenons-nous que Jean-Luc Mélenchon n'a pas donné de consignes extrêmement claires, que la droite était divisée puisqu'une partie d'entre elles appelait à l'abstention. Donc, c'est bien une victoire personnelle de Macron face à Marine Le Pen.
Ce qui ne semble pas être l'avis de Sylvain Bourmeau.
Non, c'est une victoire d'Emmanuel Macron, c'est incontestable. Mais enfin, dire qu'il n'y a pas eu de Front Républicain me paraît aller vite en besogne. Certes, il n'y a pas eu le même type de Front Républicain qu'en 2002. Ce front s'est fissuré. Un certain nombre de gens n'y ont pas pris part, en particulier Emmanuel Mélenchon. Mais je pense que au sein...
Alors, Jean-Luc Mélenchon, pas Emmanuel Mélenchon.
Pardon, Jean-Luc Mélenchon.
Vous avez l'esprit de synthèse, mais je ne crois pas que ça puisse aller aussi loin.
C'est l'esprit d'oxymore qui gouverne désormais. Mais en fait, je voulais dire simplement que ce Front Républicain, je pense qu'il a traversé hier un certain nombre d'électeurs individuellement. Bon nombre d'électeurs ont mis un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne, c'est vraiment dans cet esprit, et je pense que même Emmanuel Macron l'a compris, l'a reconnu, il l'a dit hier soir dans son discours, extrêmement clairement, qu'il avait été élu aussi grâce à ses voix. Bon, je voudrais juste citer l'enquête, la seule enquête un peu sérieuse hein, qui a été menée tout au long de cette campagne, qui est l'enquête sur un gros panel du Cevipof faite avec Le Monde, enfin pour Le Monde. Cette enquête nous apprenait que seuls 40% des électeurs d'Emmanuel Macron votaient par adhésion et que 60% votaient pour lui, mais pas par adhésion. Donc voilà, je pense qu'on a la clé, malgré tout, de ce vote. Donc dire qu'il n'y a pas eu de Front Républicain, on peut le regretter. Moi, je suis très inquiet du fait qu'on ait reculé à ce point par rapport au score de 2002. Et la responsabilité en incombe directement aux prises de position du type de celle de M. Mélenchon.
À droite aussi.
Et à droite aussi, il y a eu beaucoup d'électeurs de François Fillon, probablement, qui ne sont pas allés voter, ou ont voté blanc ou nul, et qui n'ont pas porté Emmanuel Macron à la victoire. Mais je crois que ce serait quand même un peu exagéré de considérer que 100% des votes d'Emmanuel Macron sont des votes qui soutiennent son programme ou son action ou sa personne.
Anastasia Colosimo, comment est-ce que vous qualifieriez cette victoire d'Emmanuel Macron?
Un peu en suivant ce que vient de dire Sylvain Bormeau, c'est vrai que c'est difficile de dire que c'est un triomphe éclatant. De ce point de vue-là, les chiffres sont éloquents. L'abstention est quand même forte.
25%.
25%. Il y a quand même 8 à 9% de vote nul. On sait ce chiffre-là, c'est ça, c'est 40 ou 43% seulement des gens qui ont voté pour Macron ont voté par conviction. Donc, et c'est vrai que la gravité d'ailleurs, la gravité d'Emmanuel Macron hier soir, c'était ça là, c'était aussi de comprendre que c'était justement pas un triomphe, que c'était une victoire, mais qu'il fallait transformer l'essai.
Deux tiers des voix, c'est pas un triomphe, il vous faut combien alors? Parce que vous savez que Hollande, il a gagné que par moins de 52% la dernière fois.
Non, mais alors, Sarkozy,
juste 53%.
En fait,
Brice Couturier, vous trouvez que c'est pas suffisant?
Attendez, Brice Couturier, juste un mot. J'ai reçu pas mal de mails la dernière fois parce que Ludivine Montigny se faisait énormément couper. J'aimerais bien en recevoir un petit peu moins cette fois-ci. Donc, on va laisser Anastasia Colosimo terminer. Voilà. Et ensuite, ce sera
oui, en fait, c'est-à-dire que évidemment que le chiffre de 65%, si on le prend en dehors de tout, effectivement, c'est plus que ce qu'a remporté Hollande en 2012. Mais enfin, Hollande en 2012 face à lui, il avait le candidat Sarkozy qui était le candidat d'un parti de gouvernement qui a gouverné depuis des décennies, etc. Donc, premièrement, évidemment, ça n'est pas le chiffre de 2002 et c'est quand même loin d'être le chiffre de 2002. Et surtout, personne n'a voté à reculons pour Chirac en 2002. C'est-à-dire que même les gens qui n'étaient pas d'accord avec Chirac, ils sont allés plutôt de manière légère. Là, il y a quand même beaucoup de personnes qui disaient soit je vais m'abstenir, soit je vais aller voter Macron, mais un peu contre ma volonté. Donc, ça veut dire que non seulement ce n'est pas un triomphe total, et surtout, et ça, il l'a rappelé dès le départ, et c'est ce qui a été rappelé par d'ailleurs tout son entourage sur les plateaux immédiatement, le combat n'est pas du tout fini, il est législatif. Et on se rend compte que d'ailleurs, on n'a même pas eu le temps encore de savourer cette victoire-là de la présidentielle. Tout de suite, il pense à la législative, parce que c'est là où ça va se jouer pour La République En Marche.
Alors, j'achève le premier tour de table, et ensuite, voilà, on pourra vraiment échanger beaucoup plus. Sylvain Kahn. Alors,
déjà, pour ne pas dire des choses qui viennent d'être très bien dites par mes trois confrères, je vais essayer de répondre à votre question avec des arguments supplémentaires. Donc, d'une part, je crois qu'on peut le dire, c'est d'abord un triomphe personnel pour un homme, un jeune homme, dit-on, en tout cas un homme jeune qui a fait un pari. Ça, je le rappelle au passage, même si bien entendu, ça va de soi. Bon, il a quand même plus de 20 millions de voix, et même si beaucoup de gens ont voté pour lui contre Marine Le Pen, c'est un chiffre, qui est, on va dire, incontestable.
Seul Jacques Chirac avait fait mieux que lui en 2002,
absolument,
en termes de nombre de voix.
Voilà. Bon, donc, j'ajouterais, par rapport à ça, qu'il me semble que c'est aussi... Bon, peut-être qu'ici le mot triomphe est trop fort, mais c'est un triomphe des qualités de débatteur qu'Emmanuel Macron a démontré dans le débat de l'entre-deux-tours. C'est-à-dire que, pour la première fois, nous ont expliqué les sondeurs, on a un débat de l'entre-deux-tours qui manifestement a fait bouger les intentions de vote telles qu'elles étaient avant le débat. Et je crois effectivement qu'il s'est passé quelque chose. Enfin, pour moi, en tous les cas, ça a été très important. Ce débat d'entre-deux-tours a été un débat totalement inédit, totalement nouveau, par sa violence, par la manière dont l'extrême droite s'est, après des années de tentatives de dédiabolisation, a révélé son vrai visage, sans parler de contenu. Et je trouve que la manière dont Emmanuel Macron a réussi, indépendamment de son programme, à résister à cette tentative, disons, de catch et de jet de boue dans laquelle Marine Le Pen a cherché à l'emmener, à mon avis, est un petit triomphe en soi et qui a joué, je pense, j'ai pas de statistiques, mais qui, je pense, a joué dans son score final. Il fait quand même plus de 66%. Bon. Et troisièmement, je dirais qu'il me semble que c'est peut-être un triomphe, d'une certaine manière, de l'envie qu'avaient, toutes tendances confondues, les électeurs d'un bing-bang. Parce que, après tout, on l'a beaucoup dit, que ça soit Mélenchon, que ça soit Marine Le Pen, que ça soit Emmanuel Macron, d'une certaine manière, c'était trois candidats hors système, pour ne pas employer le mot d'antisystème qui est très connoté. Et finalement, les électeurs ont réussi à faire élire quelqu'un dont le projet actuel, avec les législatives qui viennent, est de faire éclater ou complètement craquer le système partisan traditionnel sur lequel repose la Ve République depuis 70 ans. Donc si ça va au bout avec les législatives, on pourra dire que dans cette mesure, c'est un triomphe, peut-être pas de son projet à lui, mais en tout cas c'est un triomphe d'une espèce de force collective, même si elle est animée de forces contradictoires, des électeurs français qui font péter quelque chose. Est-ce que ça va rester dans les rails institutionnels? C'est possible. Est-ce que ça va déborder? Est-ce qu'on est, beaucoup de gens ont dit, on est en 58, est-ce qu'on est aussi en 67? Réponse bientôt.
Sylvain Bourbon.
Ou en 62. Je vais revenir sur la campagne législative de 62 qui a vu le personnel politique de la 4e République balayé en une élection, des gens comme Paul Reynaud ou Pierre Mendès France battus dans leur circonscription, des très grandes figures de la politique française, un renouvellement considérable de l'Assemblée nationale qui était la suite de 58 à certains égards. Donc il y a cette dimension. Juste un tout petit mot sur le débat. Je suis d'accord, Emmanuel Macron s'est montré extraordinairement calme, efficace, présidentiel, nettement meilleur dans ce débat que dans les débats précédents. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas photo. Pour autant, peut-on vraiment accorder à ce débat cet effet? Je pense que c'est plus généralement, mais ça c'est typique de l'entre-deux-tours quand il y a le FN, le fait que soudainement, un certain nombre de gens disent plus clairement qu'avant ce qu'est le Front National. C'est-à-dire que Sylvain Kahn vient d'employer le mot « extrême droite ». On a vu, mais il a fallu attendre 8 jours, Libération titré 16 pages anti-FN à la une. C'est-à-dire qu'on a vu un certain nombre d'acteurs sociaux, de médias, prendre leurs responsabilités publiques et exercer dans l'espace public une pression sociale pour signifier l'interdit...
Nommer les choses.
L'interdit du vote Front National. C'est-à-dire qu'il y a un tabou par rapport à la République, et la réponse à ça, c'est le discours de Marine Le Pen hier, laissant entrevoir la possibilité d'un changement de nom. Elle aura essayé cette fois de gommer son nom de famille, qu'on l'appelle par son prénom, faire disparaître son nom de famille, parce qu'elle sait très bien que c'est ça qui, dans l'entre-deux-tours, à chaque fois la pénalise. Ça a été le cas au régional, ça a été le cas cette fois-ci, et là ils vont, la prochaine fois, essayer carrément de se débarrasser du nom Front National. Vous rappelez aussi qu'elle avait menacé les journalistes de leur intenter un procès s'ils disaient que le Front National était un parti d'extrême droite. Donc on voit bien que là, il y a un jeu, une lutte sémantique extrêmement forte. Je pense qu'il faut le garder en mémoire, tous les commentateurs, parce que cette pression sociale qui s'exerce pendant le deuxième tour, contrairement à ce que disent beaucoup, je crois qu'elle joue un grand rôle et qu'elle dissuade énormément de gens de voter pour le Front National, et que par ailleurs elle a encouragé aussi beaucoup de gens à aller voter pour Emmanuel Macron. Donc je pense que ce sursaut dont le débat a fait partie, en quelque sorte, le débat a servi...
Macron
que,
a dit à un moment donné, vous êtes d'extrême
voilà, droite. Voilà, mais il a pas été le seul, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'un certain nombre de corps intermédiaires, de prises de position, ici ou là, de professionnels dans différents secteurs, ont eu cette importance, cet effet, et ça me semble important à souligner. Et
juste pour information, on consacrera notre émission de vendredi prochain, donc cette semaine, au traitement médiatique du Front National et des ambiguïtés, effectivement, qui sont fait jour entre l'avant-premier tour et l'entre-deux-tours, où on voit bien que c'était pas du tout la même façon d'aborder ce parti politique. Anastasia Colosimo et Iris Couturier.
Alors justement, moi je suis vraiment... je pense que c'est vraiment à double tranchant ce que vous dites là, parce que cette pression, justement, et c'est intéressant parce que vous parlez de pression, cette pression sociale, cette pression...
Je parle d'interdit,
oui. Oui, oui. Je pense que ça ne suffit plus. Et c'est justement pour ça, aujourd'hui, que Emmanuel Macron est à 65% et non pas à 80%. Parce qu'en fait, cet argument-là, c'est un argument de bricolage de dernière minute, mais ça ne suffit pas parce que les gens ne veulent plus entendre ça. C'est-à-dire que je pense qu'ils y sont beaucoup moins sensibles qu'avant. C'est-à-dire que je pense que la diabolisation pure, juste de dire c'est un interdit, c'est un tabou, ça ne fonctionne plus. Mais sinon, le Front National serait à 20% au second tour.
Mais ça a très bien fonctionné dans l'entre-deux-tours.
Alors, en revanche, je pense que ce qui a très bien fonctionné dans l'entre-deux-tours, c'est que, en fait, Marine Le Pen s'est effondrée, en fait, pendant le débat. C'est pas seulement que Emmanuel Macron a été bon. Il a été bon, mais elle a été très mauvaise. Elle a été très mauvaise sur les questions économiques. Et en fait, ce qui est ressorti de ça, c'est même pas tant sur les idées, c'est qu'elle ne maîtrisait pas les dossiers. C'est qu'on ne pouvait pas lui donner les clés de la voiture parce qu'elle savait pas faire des arrêts de moteur. Et ça, je pense que ça a joué énormément. Celle qui a le plus desservi cette campagne de l'entre-deux-tours, c'est Marine Le Pen elle-même au moment de ce débat.
Alors, on parle d'effondrement pour le Front National avec un parti quand même qui recueille sur sa candidate 10 millions de voix. Brice Couturier, là aussi, peut-être pour qualifier le score du Front National. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, exemple qu'il y a aujourd'hui, que le Front National se retrouve dans la situation d'être le principal parti d'opposition par rapport à la nouvelle majorité.
Ça, c'est intéressant. Bon, d'une part, sur le débat, pour en revenir sur ce sujet, moi, il m'a semblé que Marine Le Pen ne faisait pas un si mauvais débat que ça, parce qu'elle ne faisait pas un débat pour les présidentielles qu'elle savait perdues. Elle faisait un débat, vous venez de le dire, pour les législatives. C'est-à-dire qu'elle se posait dans la peau du principal opposant du président Macron déjà élu. Ce qui est assez habile en réalité quand on y réfléchit. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Sylvain Bourmont, nous sommes entre 58 et 62. Pourquoi ? Parce qu'en 58, le général de Gaulle renverse la table, prend le pouvoir et instaure une nouvelle république, mais il est obligé de composer avec les vieux partis existants. Il y a encore des radicaux socialistes, des indépendants et paysans, que sais-je. Ici, aujourd'hui encore, on a des républicains et des socialistes, mais croyez-moi, ils vont dégager très vite. Parce que nous sommes effectivement en 62, nous sommes à la veille d'une redistribution générale des cartes politiques sur la scène française, parce qu'effectivement ces vieux partis nous ont amenés avec leur loi de l'essuie-glace un coup à gauche, un coup à droite sans interruption depuis 1981 dans la situation catastrophique où est aujourd'hui plongé le pays, et qu'effectivement les électeurs avaient envie de renverser la table. Par bonheur, ils ont trouvé l'homme providentiel pour le faire sans tout casser. Emmanuel Macron, ça aurait pu être bien pire si ça avait été l'homme providentiel aurait été soit Mélenchon, soit Marine Le Pen. Là, on aurait vraiment eu des dégâts. Là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus civilisé, un petit peu, d'ailleurs comme De Gaulle a civilisé la situation qui était insurrectionnelle en 58. Et donc, l'histoire s'est bien débrouillée. On est bien tombé. Mais effectivement, ce qu'on vit là est un bouleversement. Ce qui est très amusant, c'est de voir ces vieux élus, là même ces vieux jeunes comme Baroin, monter au créneau comme si on était encore à l'époque où la droite obligatoirement devait succéder à la gauche au pouvoir parce que la gauche a succédé à la droite. Mais enfin, ces gens se trompent d'époque. C'est terminé. Leur époque est terminée. Il faut qu'ils s'en aillent. Ils ont échoué.
Brice Couturier, avec vraiment, en étant honnête, c'est-à-dire que vous avez regardé, j'imagine, la soirée électorale comme moi, les personnes qui sont venues. C'est-à-dire que le dégagisme, c'est sympathique, mais enfin, vous voyez bien que c'est pas possible. On a vu sur les plateaux télé, les personnes qui défendaient Emmanuel Macron étaient les mêmes personnes.
Ce que les journalistes avaient choisi, mais comment... croyez-moi, je ne pense pas que Ségolène Royal fasse partie du gouvernement.
Non, mais il y a autre chose qui est que. Mais par ailleurs, moi, je n'accuse pas parce que je trouve ça à peu près normal. C'est-à-dire qu'on peut pas non plus renouveler une classe politique en un claquement de doigts. C'est-à-dire que la politique, c'est quand même un métier. Il faut quand même une expérience. Et je pense que cette folie du dégagisme, on va mettre que des personnes de la société civile, ça ne tient pas. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même a déjà dit qu'il va accepter des investitures bicolores, En Marche et Parti Socialiste ou Les Républicains. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus être dans la folie de ce renouvellement parce qu'il n'est pas réel et ça serait pour le coup vendre quelque chose qui n'est pas vrai et qui n'est pas possible et qui n'est pas souhaitable non plus.
Sylvain Cahn.
Alors, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Anastasia Colosimo, on a au moins un pays européen qui est l'Italie où on a des exemples dans les 20 dernières années, on va dire, de remplacement par une génération spontanée de tout un personnel politique en quelques mois. Rappelez-vous, dans les années 90, c'est le surgissement de Silvio Berlusconi qui, en 4 mois, fonde son parti Forza Italia, si je me souviens bien, et qui prend le pouvoir pour un certain nombre d'années. Je ne dis pas du tout que les programmes sont les mêmes, mais en termes, on va dire, de dynamique, il y a quelque chose de comparable. Italie toujours avec le parti des démocrates de gauche qui, à sa façon, a été dans les années 90 un espèce de bing-bang complet et réussi et très vite des partis de gauche italiens traditionnels. Et enfin, le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo qui surgit comme une comète en 2012 et qui non seulement est toujours là, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il est de droite ou s'il est de gauche, dont le leader dit « je suis à la fois de droite et à la fois de gauche », qui, à la différence de Macron, a des morceaux de son programme qui sont populistes et qui aujourd'hui dirige déjà 3 des plus grandes villes d'Italie et qui est annoncé gagnant, on verra, dans les sondages et les intentions de vote aux prochaines législatives qui sont programmées pour fin 2018 ou début 2019. Alors une fois qu'on a dit ça, moi je suis très sensible à ce que vous venez de dire les uns et les autres sur le fait que, enfin par rapport au dégagisme, c'est-à-dire que il me semble, enfin moi j'ai été très frappé, enfin nous tous on en avait parlé la dernière fois d'ailleurs, j'ai relu les premières pages du passé d'une illusion de François Furet. Je pensais pas que j'aurais à les relire si vite, je les avais pas trop oubliés. Qui dit, pour expliquer l'importance de la séduction du communisme tout au long du XXe siècle, qui fait une espèce de généalogie qui arrive avec le début de la révolution industrielle, en disant, avec la naissance de la démocratie et de la nation, et de l'État-nation, tout d'un coup, les inégalités deviennent insupportables et illégitimes à une grande partie du corps social. Et on serait, et il disait, et c'est pas sûr que ça ne revienne pas un jour, cette espèce de détestation des inégalités qui peut mener à une haine de la bourgeoisie, une haine de l'argent, et donc diffurait, que je résume malheureusement trop mal et trop vite, à une forme de haine de soi. Et moi j'ai été très frappé, et on en a eu encore hier soir, me semble-t-il, un petit écho à travers le discours de Jean-Luc Mélenchon, dans cette manière qu'il avait de dire en parlant, en disant « je suis le porte-parole des 7 millions de personnes qui ont voté pour mon programme », en voyant quand même le nombre de personnes qui se sont abstenues, le nombre de personnes qui ont voté blanc, quand même près de 12% blanc ou nul. C'est-à-dire, on sent bien que, vous vous rappelez tous du texte de François Ruffin sur « Monsieur Macron, vous êtes déjà haï avant même d'être élu ». Il y a quelque chose, c'est-à-dire, j'aimerais avoir l'optimisme de Brice Couturier quand il dit ben, « comme De Gaulle, Monsieur Macron va canaliser, on va dire, la sédition ou l'esprit de révolte. » J'en suis pas sûr. D'abord parce qu'on ne sait pas si Macron arrivera à être, entre guillemets, à la hauteur de De Gaulle dans un tout autre contexte. Et deuxièmement, il y a une telle haine, en ce moment, une telle envie de renverser la table, une telle passion de l'égalité qui manifestement est à nouveau une défiance de la liberté, que je ne sais pas trop ce que ça va donner.
Juste un chiffre qui n'est qu'un indicateur, une enquête d'opinion, alors qu'elle a été réalisée un petit peu avant le second tour, enquête Ipsos, si mes souvenirs sont bons, 61% des personnes interrogées ne souhaitent pas que le nouveau président ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Sylvain Bourbeau.
Juste sur la question des inégalités, je ne sais pas s'il y a une passion pour l'égalité. Ce que je sais, c'est qu'il y a un inexorable accroissement des inégalités dans ce pays depuis 30 ans. Et quand on regarde les courbes du vote et du niveau de revenu, leur corrélation entre ces deux variables, pour le Front National ou pour le Parti Socialiste, par exemple, c'est très impressionnant. Donc, parenthèse, faudra qu'on y revienne parce que je pense que c'est un grand sujet. C'est pas que le bloc insoumis, c'est aussi évidemment du côté du Front National.
Tout à fait. Tout
donc,
à fait.
Mais alors, la question des législatives. L'Italie, c'est intéressant, mais il y a une vraie différence. C'est que là-bas, le mode de scrutin, c'est la proportionnelle de liste. Et donc, quand vous créez un nouveau parti, vous faites une liste à Rome, et puis vous classez les gens que vous recrutez dans l'ordre, et puis vous les faites élire. Ça n'a rien à voir avec le système français, dont vous savez que c'est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, donc avec 577 circonscriptions. Et là, on est dans une situation assez incroyable. Alors déjà, c'est ce qui caractérise la Ve République par rapport à tous les autres régimes dans le monde, c'est qu'on a deux circuits électoraux qui sont en concurrence. L'un pour l'élection présidentielle, avec une circonscription unique, qui confère donc à celui qui gagne une légitimité exceptionnelle. Olivier Duhamel avait coutume de dire capétienne. Et puis, pour les députés, bah, c'est un 577e de cette légitimité-là. Alors, vous savez, pendant longtemps, il y avait le septennat, donc il y avait ces histoires de cohabitation. Depuis que tout ça est découplé, on a coutume de dire que sous la Ve République, s'est installé et renforcé avec le quinquennat le fait majoritaire. Et le fait que quand un président est élu avec cette légitimité énorme, alors a fortiori quand c'est 66% des voix, peut-on penser, il réclame au peuple une majorité et il l'obtient. Parce que quand on regarde les résultats législatifs qui ont suivi les présidentielles, à chaque fois, c'est amplifié. Donc, ça c'est la règle. Sauf que cette fois, on a plusieurs choses qui permettent de vraiment douter, et moi je n'ai absolument pas la réponse aux questions que je pose. Soit on va être dans cette logique-là, et Emmanuel Macron va obtenir une majorité En Marche tout seul, selon la logique de la Ve République, et il va réussir ce dont parlait Brice Couturier tout à l'heure, soit du fait de du caractère un peu jeune de son organisation, que va être ce recrutement de ces candidats. On va avoir la liste cette semaine, ça va être intéressant de voir. Il y a eu des milliers et des milliers de candidats. Quel type de déception ça va générer aussi chez ceux qui ne vont pas être retenus, etc. Bon, on va voir. Et puis, il y a l'implantation locale des députés sortants, qui sont des gens souvent bien installés. Est-ce que les électeurs vont avoir la même envie de dégagisme à l'égard de leurs élus locaux qu'ils ont pu avoir à l'égard des élus nationaux? Je n'en suis pas sûr du tout. Et puis enfin, dernière chose, l'offre politique étant segmentée en 5 blocs, On va se retrouver avec des triangulaires et des quadrangulaires qui va transformer cette élection, ces élections législatives en une véritable roulette russe. Tout peut sortir. Le premier tour va être, de ce point de vue, assez incroyable.
Et là, le Front républicain ne sera peut-être pas aussi performant qu'il l'a été, d'ailleurs, lors de la présidentielle, hein, sur les triangulaires ou les quadrangulaires.
Absolument. J'aurais juste terminé en dire une chose, c'est que personnellement, je pense que dans tous les commentaires que j'entends, les gens ont tendance à sous-estimer, malgré tout, ce que je soulignais en premier, c'est-à-dire la logique présidentielle, le fait majoritaire. Je pense que ça va jouer, en dépit des réserves que j'ai précisées après, je pense que ça va jouer très fort néanmoins.
Quelles que soient les préférences partisanes qui peuvent être les vôtres, est-ce que vous considérez qu'il serait quand même plus sage, plus utile que cette préférence majoritaire pour le président qui vient d'être élu et ce qu'il est de plus souhaitable pour le pays, pour la stabilité du pays, ou bien est-ce qu'on peut considérer au contraire que pour que l'ensemble du corps électoral, ou en tout cas la part la plus large possible du corps électoral soit représentée, que le président ne soit pas forcément, enfin que les candidats d'En Marche n'obtiennent pas une majorité et que le gouvernement soit obligé peut-être un coup d'aller un peu à droite, un coup d'aller un peu à gauche. Anastasia Colosimo.
Non, je pense que si on réfléchit justement au fait qu'on a élu le président Emmanuel Macron et qu'il y a quand même une attente et une soif du fait que les choses changent et qu'il y a des promesses dans ce programme, qu'on soit d'accord avec ou non, on aimerait se dire il faudrait qu'il ait les mains libres pour les faire, pour voir. Enfin, c'est-à-dire que on peut pas voter pour un président et ensuite ne pas lui donner la majorité pour, et donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire
de
son programme?
Tout dépend des raisons pour lesquelles on vote pour ce président.
Non, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que évidemment que du point de vue de la logique des institutions, c'est souhaitable. Les institutions ont été faites comme ça, elles ont été pensées comme ça. Et même la cohabitation avant le quinquennat et avant le bouleversement de calendrier, c'était quand même un ovni, la cohabitation. Il n'y avait rien d'évident dans la cohabitation dès le départ dans les institutions de la Ve République. Aujourd'hui, ça serait carrément sans doute une anomalie et c'est certain que ça engendrerait quand même une instabilité, parce que par ailleurs, je pense pas non plus que si En Marche n'obtient pas la majorité absolue, qu'il y aura une vraie majorité absolue. Donc ce qui risque de se passer, c'est en fait un Parlement qui sera très éclaté, à l'image du premier tour de la présidentielle, donc dans l'optique où En Marche ne gagne pas de majorité absolue. Et dans ce cas-là, moi je pense que c'est très compliqué parce qu'on n'a pas du tout cette culture des coalitions. On en parlait là récemment. Et là, effectivement, ça va être ce qu'on a vécu pendant la campagne, c'est-à-dire quatre France qui s'affrontent, sauf que ça va être ça tout le temps. Et là, pour le coup, essayer de changer des choses, pour essayer de réformer le pays, d'engager en tout cas des changements, c'est très compliqué.
Moi,
c'est
Couturier.
Oui, il y a une logique institutionnelle qui veut que le peuple, une fois qu'il s'est prononcé, ne se prononce pas immédiatement après, en sens contraire, ce qui serait étonnant. Mais je vois bien qu'un procès en illégitimité est fait à Emmanuel Macron depuis le début. Beaucoup de gens ne croyaient pas. Par des tas de gens, disons. Je vois bien que pendant très longtemps, on nous a dit que c'était une bulle et qu'elle allait éclater, vous vous souvenez? Et finalement, la bulle, elle a fait 66% des votes, et donc les gens qui n'y croyaient pas continuent à ne pas y croire. Après avoir nié la possibilité de son élection, aujourd'hui il nie sa réalité même. Alors le dernier
qui avez-vous entendu remettre en cause la réalité de son élection?
Non, mais quand on dit que c'est le pur fruit du Front républicain et que les gens qui ont voté pour lui ont voté pour lui simplement parce qu'ils étaient contre Marine Le Pen, c'est, on lui fait un procès en illégitimité. On dit que son programme ne doit pas être appliqué. Quand on rappelle des sondages qui nous disent que beaucoup de gens ont voté pour lui sans apprécier ni sa personne ni son programme, on lui fait un procès en illégitimité. Oui, je maintiens cette déclaration-là. Alors aujourd'hui, on nous dit, alors le dernier barrage, c'est que ça sera aux législatives. Là, il n'aura pas de majorité, donc il ne pourra pas gouverner. C'est le dernier blocage qu'on peut imaginer. C'est possible, mais alors ça voudrait dire effectivement que le pays deviendrait ingouvernable, parce que vous imaginez effectivement un trop faible groupe parlementaire républicain En Marche, qui serait obligé de s'allier sur certains projets de loi avec les républicains à droite, sur certains autres avec les socialistes à gauche, pourquoi pas avec Mélenchon ou avec peut-être le Front National.
Mais ça serait pas cohérent avec l'approche de Macron, justement.
Ah non, ça serait pas cohérent du tout, parce que ce que souhaite Macron, c'est pas des majorités à géométrie variable, c'est renverser la table pour faire un bloc de réformateurs. Enfin, vous savez, moi, c'est la position que je défends depuis plusieurs années au micro de France Culture tous les matins depuis très très longtemps, donc je m'y retrouve effectivement assez bien, c'est pour ça. Effectivement, moi, j'ai toujours pensé que, comme les Allemands, les Suédois, les Danois et quelques autres, la seule façon de réformer le pays, c'était une alliance des réformateurs au-delà des étiquettes politiques, simplement le cercle de la raison, les gens qui sont au courant des problèmes, qui savent qu'un pays ne peut pas continuer éternellement à dépenser 56% de son PIB pour la dépense publique, qui savent que les comptes sociaux ne sont pas équilibrés et que notre système social court à la faillite. Et tous ces gens sont conscients, il y en a un certain nombre, et ils peuvent effectivement le réformer le pays à condition de s'entendre entre eux. Et c'est pas les élus d'autrefois qui peuvent le faire, parce qu'ils n'y sont pas arrivés autrefois, ils n'y arriveront pas aujourd'hui, demain non plus. Après tout, Sarkozy aussi a essayé de manière volontariste, il n'a réussi à rien finalement. Hollande aussi avait de bonnes intentions et il n'a rien réussi non plus en marchant en crabe. Il faut changer de méthode.
J'ai deux Sylvains qui veulent réagir. Sylvain Kahn. Bon,
moi, je crois que ce qui est très important par rapport à votre question, Hervé Gardette, sur la future Assemblée nationale, c'est que cette fois, et ça va probablement être le cas, en dépit ou maintenant en raison du scrutin uninominal majoritaire à deux tours, c'est que tous les grands partis, toutes les grandes forces soient représentées. C'est plus possible que le Front National, surtout maintenant qu'il y a 10 millions et demi de personnes qui ont voté pour lui, ne soit plus à l'Assemblée nationale. Donc la première réponse à votre question, c'est il faut de toute manière que les grandes forces, vous avez tous dit 4, bon, même si on rajoute celles qui sont devenues petites entre-temps, 5, 6 ou 7, ça me paraît souhaitable que toutes les forces soient représentées d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, justement, je vais m'appuyer sur ce que vient de dire Brice pour considérer que lorsque le président élu, ce qui était le cas de François Hollande et Nicolas Sarkozy, se retrouve conforté et confirmé immédiatement après le législatif par une majorité absolue, en tous les cas, il y a une coïncidence, peut-être pas une corrélation, avec le fait que, comme vient de le dire Brice, ils n'ont pas réussi à mettre en œuvre le programme pour lequel ils ont été élus pour autant. Donc je crois qu'on est rentré dans une période où, en tous les cas, on ne peut que constater depuis au moins deux mandats, deux quinquennats, que le fait d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale ne garantit pas que le président de la République parvient à faire tout ce pourquoi il s'est fait élire. Et vous vous rappelez tous que quand Nicolas Sarkozy s'est fait élire en 2007, il avait un mandat très fort, et François Hollande, peut-être moins fort, mais il y avait une grande espérance.
Donc pour qu'Emmanuel Macron puisse mettre en place son programme, il faut qu'il soit minoritaire.
Alors qu'il soit minoritaire, mais je pense qu'il y a, là aussi servons-nous des précédents historiques, c'est ça qu'on aime bien avec la 5e, maintenant qu'elle a 70 ans d'âge, je pense qu'il y a un précédent qui, moi, me paraît intéressant, qui est le précédent de 88. Le précédent de 88, vous vous rappelez, François Mitterrand, comment il avait appelé ça, la France unie, il est élu avec un très très beau score, plus de 54% face à Chirac, 46%. À propos de débat, j'espère que vous avez tous, si c'est encore possible de le faire, que vous avez tous regardé quelques extraits, voire in extenso, le débat de l'entre-deux-tours de 88, qui est quand même un débat d'ontologie absolument extraordinaire. Moi, j'ai regardé ça m'a fait beaucoup de bien, un peu avant le débat affreux qui a eu lieu cette année, très dur. Et donc, en tous les cas, ensuite, Mitterrand lui-même a dit « Bon, ben voilà, allez-y, votez ce que vous voulez. » Et il a eu une majorité relative. Il lui manquait 10 ou 12 sièges pour avoir la majorité absolue. Et il me semble que ça serait pas mal. Voilà, moi, donc pour répondre à votre question, je suis contre une cohabitation. Je ne crois que ça serait pas bon que soit Mélenchon, soit le Front National, soit les Républicains aient la majorité absolue et se retrouvent en situation de diriger le gouvernement et de cohabiter. Mais je trouverais ça mieux, parce que ça obligerait Macron à étaler toute cette intelligence qu'on lui prête, et ça ferait que tout le monde serait entendu, parce qu'il faut bien croire que les forces sociales, les syndicats, les associations, etc., etc., tout le monde a besoin d'avoir des relais à l'Assemblée nationale, ce que n'offre pas une situation où on a un parti godillot, majorité absolue, parce que c'est toujours comme ça que ça finit.
Et juste petite précision par rapport à votre intervention, sans vouloir céder au jeunisme ambiant, mais je crois qu'il faut rajeunir un petit peu la 5e République qui n'aura que 60 ans et pas 70, si mes comptes sont bons. Pendant que vous parliez, je vous écoutais.
À 70 ans, je faisais mes calculs. Il est jeune.
Oui, jeune.
Voilà,
mais
bon. Hein, voilà, c'est pour ça.
Sylvain Brambeau.
Je voulais revenir sur ce qu'a dit Brice Couturier. Je je n'ai pas fait, et je ne sais pas qui a fait un procès en légitimité à Emmanuel Macron. Je pense que, simplement, Emmanuel Macron lui-même est beaucoup plus lucide sur la nature du score qu'il a obtenu. Il a intérêt à l'être s'il veut construire quelque chose de solide. S'il s'imagine que les 20 millions de voix qu'il a reçues sont des voix qui sont un mandat pour mener son programme, il se trompe. Là-dessus, son score du premier tour me paraît déjà une approximation plus grande, même si il était déjà, en quelque sorte, gonflé par un réflexe de vote utile, puisque ce vote de premier tour, on sait, là aussi par les enquêtes, qu'il a été alimenté par des gens qui n'étaient pas en adhésion totale avec le programme d'Emmanuel Macron. Là-dessus, j'ai dit exactement le contraire s'agissant législatif, c'est-à-dire que moi, personnellement, je suis assez persuadé que la logique présidentielle va continuer à jouer en dépit de la situation très singulière dans laquelle nous nous trouvons et que je soulignais tout à l'heure. Mais si elle va continuer à jouer, à mon sens, ce n'est pas tant parce que Emmanuel Macron va réussir à trouver cette majorité de ce que vous appelez le cercle de la raison, c'est-à-dire en gros les gens qui veulent mener cette politique économique, parce que parmi ceux-là, il y a des gens qui sont en désaccord total sur d'autres questions, comme celle de l'immigration, par exemple, ou celle des libertés publiques, etc. Emmanuel Macron est un libéral politique, et un certain nombre de gens qui sont d'accord avec lui sur la politique économique ne le sont pas. Prenons Manuel Valls, par exemple, qui est beaucoup plus à droite que lui sur ces questions. Donc, bref, ce groupe-là de gens que vous appelez le cercle de la raison, ça fait pas une majorité aux législatives, loin s'en faut. Et je pense que si Emmanuel Macron parvient à trouver une majorité aux législatives pour ses candidats En Marche, ce sera pas tellement avec ce socle, mais en plus avec des gens qui sont probablement les électeurs les moins politisés, ceux qui sont les plus légitimistes. C'est ce réflexe-là qu'on voit se produire dans les législatives qui suivent une présidentielle. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, ou ce que j'appelle les résistants de la 25e heure. C'est toujours agréable de voter pour le vainqueur, surtout quand on l'a pas fait la première fois. On a une deuxième chance. Et donc, on a gagné. Enfin, bon, voilà. Donc, ça, c'est un réflexe que l'on voit très bien, qui a été documenté par des enquêtes auprès d'électeurs qui sont dans une relation assez relâché à la politique, on va dire. Et si ces gens-là se déplacent pour soutenir le président, parce que voilà, ils veulent faire partie de la fête, eh bien, il y a des chances qu'il obtienne cette majorité. Mais les gens les plus politisés ne le soutiendront pas, notamment ceux qui ont voté pour lui au deuxième tour de l'élection présidentielle contre Marine Le Pen.
Est-ce qu'un des atouts d'Emmanuel Macron, ça ne sera pas aussi d'avoir peut-être face à lui une absence de réelle opposition ? C'est-à-dire qu'on parle du Front National comme peut-être principale force d'opposition, on ne sait pas. Mais en tout cas, une opposition qui serait cohérente idéologiquement, ça c'est quelque chose qui semble a priori exclu à l'issue des prochaines législatives, Brice Couturier.
Bah attendez, ça serait bien étonnant que les 19,5% de Mélenchon ne se traduisent pas par un bloc parlementaire assez important. Ça serait étonnant que les 20%, les 21%...
Oui, mais vous ne faites pas voter de la même manière forcément.
De Marine Le Pen ne se traduisent pas aussi par un...
Le score de Jean-Luc Mélenchon a été gonflé artificiellement aussi par réflexe de vote utile et au moins 7
non,
points.
Non, écoutez, ce qui va se passer, ce qui va se passer, c'est la disparition du Parti Socialiste qui est écartelé entre effectivement Mélenchon et Macron.
Là, vous êtes dans le wishful thinking.
Vous allez voir. Et quant aux Républicains, ça sera un petit peu la même histoire. Enfin, probablement moins facile parce qu'ils ont quand même fait 20% eux aux législatives, contrairement aux socialistes qui ont fait 6,5%.
Les Républicains en marche, en fait, parce que donc du coup, comme le nom a changé, La République en marche, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut dire Les Républicains en marche. Donc là, Les Républicains sont.
Vous
ils
croyez
ont
qu'on
plus
va tromper les
fait.
Électeurs
oui,
comme
pour,
ça
pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi, en tout cas dans le journal, effectivement, le mouvement s'appelle désormais La République en marche.
Oui, donc vous ceux vous qui compte, participent. Donc en fait, ceux qui participent, donc ils se sont Les Républicains en marche.
Ah bah, non, écoutez, les Républicains avaient déjà capté ce terme, donc finalement, voilà, on s'est.
J'ai lu beaucoup sur les réseaux sociaux qu'on risquait le parti unique, ça me fait bien rigoler. Il faut vraiment connaître l'histoire des démocraties populaires pour savoir ce que c'est qu'un parti unique. Non, non, bien sûr qu'il va y avoir des oppositions, mais ça sera pas les mêmes.
Voilà, c'est des oppositions, pas une opposition.
Ben non, parce que vous avez le Front National, vous avez les Insoumis, ça fait quand même 20% dans les deux cas, c'est pas rien. Ces gens-là vont forcément avoir des députés.
Et vous aurez les Républicains et vous aurez le Parti Socialiste.
Ouais. Bon, les Socialistes, ouais. Ce qui va en rester, et les Républicains, il ne va pas en rester lourd non plus. Enfin,
mais il faut gagner, il faut dans chaque circonscription réussir à sortir vainqueur au deuxième tour, et donc à mon avis, la France insoumise va avoir ne va pas avoir 20% de députés dans l'Assemblée nationale, parce que
et le Front national non plus.
C'est-à-dire qu'ils vont se maintenir au deuxième tour quoi qu'il arrive, et quand on aura des triangulaires ou des quadrangulaires, voire des pentagulaires, et ben à ce moment-là, on va avoir
une extrême droite et une extrême gauche.
Je pense que Sylvain Bourmeau aussi rappelle quelque chose de très important, c'est que les élections locales, c'est pas les élections nationales, et le cumul des mandats aussi a fait que il y a un ancrage local qui est extrêmement fort. Et que même des gens qui répondent à une enquête d'opinion en disant oui, dans l'idée, je pourrais bien voter pour un candidat En Marche, en fait, dans l'isoloir, ils vont voter pour le candidat qu'ils connaissent.
Ça dépend.
Sans même se poser la question.
Ça dépend beaucoup des circonscriptions. Donc, dans les très grandes villes.
Et là, c'est très bientôt. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore le nom des gens qui vont être investis. Et les élections, c'est début juin.
Et 40% des électeurs vivent dans des villes, dans les 17 plus grandes villes. Et franchement, moi, j'ai eu dans ma boîte aux lettres il y a quelques jours, tout d'un coup, on m'a rappelé qui était le député de mon quartier. J'ai dit, heureusement, je la voir en photo, parce que ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vue, celle-là.
C'est un truc de parisien, ça.
De parisien, de toulousain, de lillois, enfin...
Non, moi, en
fait. Vous verrez. Le Front National, il fait élire des gens dans les locales. Les mecs, ils ne sont même pas connus. On ne les connaît pas la veille.
Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débrief du second tour de la présidentielle. Anastasia Colosimo, Sylvain Kahn, Brice Couturier et Sylvain Bourmeau. On retrouve prochainement le Club des Idées du Grain dans ses jours habituels, c'est-à-dire le vendredi. Je ne sais pas si c'est comme ça que j'aurais dû le dire. Merci à l'équipe du Grain, Mélanie Chalondon, Fanny Richet, Céline Leclerc, Cyril Baer, Louise Fuseau. Émission réalisée par Milena Helig. Avec à la prise de son Bruno Gagnère-Fontanille. Demain, qui sort vainqueur de la bataille des idées? Ce sera à nouveau une émission consacrée à cette présidentielle.